Vous écoutez
RMC.
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
J'adore football, je mange football, je respire football.
Oh, laisse tomber, j'en ai marre.
Griezmann, deux petits pas d'élan dans la surface de réparation. La tête.
Si on l'avait perdu le titre, est-ce que ça aurait été si grave?
Le très très haut niveau, c'est une machine à laver. On joue tout le temps, on s'arrête jamais. Et en ce moment, voilà, j'ai l'impression un peu d'étouffer. Et le joueur qui est en train de bouffer l'homme.
Ce que je te dise, je comprends rien moi à ce qui se passe. Tout allait si bien et d'un seul coup tout va si mal.
Le coup franc de Griezmann pour l'équipe de France, il est rentrant vers Giroud. Avec Kotsilak qui a du mal, la tête est reprise par Varane. Le but est accordé à Raphaël Varane.
C'est terminé, rien n'est terminé.
J'ai tout donné, physiquement, psychologiquement.
Tu continues à cause de vous. C'était pas ma guerre.
Et oui, nous allons parler de Raphaël Varane dans ce débat. Alors, les mauvaises langues
diront... J'ai cru que t'allais le dire en anglais, le proverbe. J'ai commencé à y avoir peur.
Non, pas du tout. Non, sinon, même moi, je ne comprends pas. Donc, les mauvaises langues diront, au moins maintenant, il va pouvoir se reposer. Quelques jours après sa sortie médiatique où il envisageait de faire grève, Rodri, le milieu de terrain de City, s'est gravement blessé au genou le week-end dernier. Fin de saison actée pour l'international espagnol. En plein débat sur les calendriers surchargés, vous avez entendu la production, Raphaël Varane a annoncé mercredi qu'il prenait sa retraite, lui qui avait déjà fait part de son mal-être physique et mental. Des débats qui ne concernent pas que les footballeurs, les tennismen s'y mettent aussi. Carlos Alcaraz cette semaine, deux points, ouvrez les guillemets, le calendrier va probablement nous tuer d'une façon ou d'une autre. La musique qui fout les jetons et cette question. Le sport d'aujourd'hui est-il en train de tuer les sportifs? Oui ou non? Fred Weiss?
Non.
Christophe Cessieux?
Oui.
Jérôme Pinault?
Non.
Marion Bartoli?
Non mais.
Non mais, il y a une nuance évidemment. Et puis on vous attend sur ce débat, et notamment Marion et Fred, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais Marion, tu as arrêté ta carrière extrêmement jeune, au haut niveau, et Fred, c'est aussi pareil pour d'autres raisons, mais tu as aussi mis un terme assez jeune à ta carrière, alors que tu aurais pu jouer encore 5 ou 6 ans. Avant de débattre, je vous propose d'écouter Jules Koundé. C'était la semaine dernière en conférence de presse, Jules Koundé qui revenait sur ses calendriers surchargés.
Je pense que chaque année, le calendrier s'allonge. Chaque année, nous avons plus de matchs et moins de temps de repos. Et au final, ce n'est pas un manque de volonté de le dire. Je pense que cela fait 3, 4 ans, voire plus que nous le disons. Mais personne ne nous écoute. Nous, les joueurs, nous sommes les principaux concernés.
Et voilà, en espagnol dans le texte pour l'international français Jules Koundé. Le sport est-il en train de tuer les sportifs? C'est notre débat, le 32-16, le hashtag RMC Lab, l'application RMC Direct Studio avec donc cette menace de grève. Mais aussi, quand on voit qu'un joueur si jeune et si talentueux, Raphaël Varane, à 31 ans, arrête sa carrière cette semaine. Christophe Cessieux, pourquoi oui, tu es le seul?
C'est marrant parce que vous dites tous non, alors qu'à vous regarder, on comprend bien que le sport, effectivement, même s'il ne tue pas les sportifs, ça les abîme quand même. Tous autant que vous êtes, quand même. Vous m'avez l'air...
Il n'y a pas que le sport, a priori le journalisme aussi.
Ouais, t'as même pas l'excuse du sport, toi, c'est ça?
Ouais. Bah non, c'est de voir vous supporter toutes les semaines, tu te rends pas compte, ça use. Avant, j'étais bien avant de faire cette émission.
Et pourtant, maman ressemblait à bébé, alors je ne dis pas le boulot quand même.
Attends, les copains. Très bonne quiche pour commencer, Christophe, t'as raison, faut toujours attaquer.
On avait.
Mais plus sérieusement sur le sujet, pourquoi tu penses que oui?
Bon, alors. Je sais pas, vous dites tous non, quoi. Alors que tous les sportifs sont en train de dire, on est au bout du rouleau, on dispute de plus en plus de matchs, les blessures sont de plus en plus régulières et de plus en plus importantes. Regarde ce qui se passe en foot, on veut multiplier encore pour avoir de plus en plus de rentrées d'argent. Tu multiplies, tu augmentes le nombre de matchs en Ligue des Champions, tu crées une Coupe du Monde des clubs. Regardez ce qui s'est passé à l'Euro. Est-ce que pour vous c'est normal? Est-ce que vous avez assez assister à un spectacle fabuleux avec des joueurs en pleine forme. Non, tout le monde se reconnaît à dire que l'Euro était d'un faible niveau parce que les mecs sont cuits, ils sont exsangues, ils sont pressés comme des citrons. Et encore ceux qui arrivent sans se blesser à cet Euro. Mais les mecs, à force de trop leur faire de matchs, n'en peuvent plus. Et évidemment, c'est le cas du foot, mais c'est aussi le cas du rugby. Le rugby, alors évidemment, on peut pas multiplier le nombre de matchs, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire plus d'un match par semaine. Mais vu la puissance des mecs, le poids, le muscle qu'ils prennent, les chocs sont de plus en plus importants. Je me demande dans quel état seront la génération actuelle et celle qui est en train d'en terminer dans 20 ans. Ils ont tous été victimes de commotions cérébrales, ils sont tous en train de venir gâteux. Et vous pensez pas que le sport est en train d'abîmer ses sportifs? Et en vélo, Jérôme, quand tu vois les mecs aujourd'hui qui vont de plus en plus vite dans les descentes avec des matériels de plus en plus sophistiqués, les gamelles à répétition qu'il y a eu tout au long du printemps, des gars comme Vingegaard qui a failli mourir sur la route, des gars comme Wout van Aert qui étaient dans le même état, vous trouvez pas que le sport en ce moment dépasse les limites
là,
et fatigue les mecs?
La chute elle a lieu au mois d'avril au Pays Basque, c'est rien à voir avec le
calendrier. Non, c'est pas le surmenage, mais c'est le nombre de courses, la pression que tu mets sur les coureurs dans les descentes, les mecs.
Tu sais combien court, tu veux que je te prends le contre-pied de suite sur le vélo. Tu sais combien de jours de course.
C'est des problèmes différents. En vélo, c'est pas le nombre de jours.
Dis dans le vélo.
C'est pas le nombre de jours, c'est que tu travailles, c'est tu bosses sur des vélos de plus en plus sophistiqués qui ne supporte pas la moindre erreur de trajectoire ou le moindre truc.
Mais c'est la préparation qui compte, c'est la durée. Moi, je pense que le débat, il est aussi, est-ce que le nombre d'années en carrière sera le même? Non, il faut juste considérer que ta carrière sera plus courte et qu'il faut que tu fasses des sacrifices.
D'accord.
Pour que sur les 5
ans. C'est-à-dire qu'au lieu de bosser sur 15 ans, tu bosses sur 10 ans.
Moi, j'ai fait 14 ans de carrière, je te promets que je suis l'un des derniers, Jérôme, qui fera 14 ans à ce niveau-là.
Jérôme,
c'est fini en vélo, en tout cas.
Plus tôt, non?
Et il commence plus tôt, voilà, Christophe, c'est là où moi je voulais en venir, c'est le football. 31, tu dis Varane, ok, mais il est pro depuis qu'il a 12 ans.
17 ans, il était déjà, mais bien sûr.
17, mais avant, les gars, parce que quand t'as 12, 13, 14 ans, que t'es déjà
en centre de formation,
où tu penses football, tu n'es plus que footballeur. Donc c'est ça qui rince. Chez les gamins, les agents, Christophe, dans le cyclisme, ils vont chercher les cadets. Les cadets, le fils d'un grand champion, Sylvain Chavanel, est aujourd'hui dans l'œil d'une énorme formation World Tour. Déjà, il a 16 ans. Donc les gamins, évidemment que au bout de 15 ans, ils sont là. On parle de blessures. Effectivement, il y a certains sports, je pense qu'ils devraient revoir aussi la prépa physique. Comment on prépare une saison? Qu'est-ce qu'on fait après et avant un match? Et quand on part en tournée ou en stage? Il faut bien tout mesurer.
Enfin, je pense que c'est assez professionnalisé là-dedans quand même.
Pour l'exemple,
de plus en plus âgés aussi qui jouent, parce que moi je prends l'exemple du basket. LeBron James à 40 ans, ça n'existait pas.
Hygiène de vie irréprochable. Cristiano Ronaldo.
En tennis, Djokovic continue.
Hygiène de vie bien meilleure qu'avant, évidemment. Travail physique et préparation mentale aussi maintenant.
Nutrition.
Alors oui, il y a des exemples inverses, mais parce que physique, on a tous peut-être des problèmes, et on peut craquer. Mentalement, on peut tous avoir des problèmes et on peut craquer. Moi, j'avais les deux, donc c'est pour ça que j'ai arrêté tôt. Mais concrètement, ça met juste en exergue le fait qu'être sportif de très haut niveau, c'est difficile.
Donc ce sont des épiphénomènes, là.
C'est des épiphénomènes, bien sûr. Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire quoi? Djoko, Ronaldo, LeBron James, ça n'arrivait pas avant. Il y a une explication à ça aussi. Parce qu'on a progressé sur plein de choses. Parce que, oui, il y a
Mais là, tu parles de trois extraterrestres, Fred.
Oui, mais.
De trois extraterrestres. Est-ce que tu penses que Djokovic, LeBron James, c'est la norme du sport mondial aujourd'hui?
Alors, combien je peux te citer de mecs de plus de 35 ans, 36 ans en NBA, alors qu'ils font 82 matchs en 5 mois?
Ouais. Non, mais Fred.
Exactement.
Fred,
il y a aussi un côté de nutrition et tout ça. Ça a tellement progressé que tu vas progresser, que tu vas jouer de plus en plus longtemps.
Il y a un côté générationnel aussi pour moi. Pour moi, il y a aussi un côté générationnel. C'est, tu vois, j'ai vécu cette expérience-là. Aujourd'hui, le sportif de très haut niveau, de pro, il est plus capable d'assumer qu'il est juste ça à faire. Il a besoin de faire autre chose. On entend Jules Koundé. Koundé, il fait beaucoup de choses à côté.
Ouais.
Dès qu'il a un peu de temps, il va faire des défilés, etc.
Ouais.
Moi, j'ai des coureurs. Un jour, j'ai un coureur, je le cite parce qu'il m'a fait bien suer après. Corentin Hermenot, grand talent. Le gamin, je le recrute. Et sa première année, il a certes pas les résultats escomptés, il a besoin de souffler, il coupe. Mais au lieu de couper 8 jours, il est parti sans nouvelles pendant 3 semaines. Je l'appelle, il me dit je suis sur un bateau, j'ai pas la tête à ça. La génération d'aujourd'hui, elle est comme ça. Si elle n'a pas envie, elle ne fait pas. Et là, on entend des choses s'élever contre quoi ? On n'a plus le temps de voir les potes, de sortir, de profiter de la vie.
Qui était la norme pour nous,
pro mec. Oui, mais parce qu'on avait cette philosophie différente. Moi, nous, on avait des gens professionnels pendant lesquels, par moment, on acceptait d'être un peu moins bon. Aujourd'hui, ils veulent être bons, ils veulent être payés pareil. Deux fois plus qu'avant.
Voire plus.
Et d'avoir du temps pour eux. Eh ben, c'est pas possible.
C'est pas possible.
Eh ben, c'est pas possible. Donc, quand on peut plus ça, là, je rejoins ce qu'a dit Varane, c'est fabuleux. J'ai eu peur que le sport, j'ai senti que le footballeur dépassait l'homme. J'arrête. Ben, très bien, chapeau. Mais c'est pas grave en fait, t'arrêtes, t'as fait ton temps.
Mais
c'est
dans le sport, tu peux pas te mentir de toute façon. À partir du moment où tu peux plus te lever le matin, tu as mal partout, tu as mal à la tête,
mal,
tu as
mal là, ou mal là, ou plus capable d'y aller et de faire mal.
Et ou mal physiquement, tu peux plus le faire. T'es jugé à chaque fois que t'es en représentation.
Donc en fait, il faudra avoir des gamins de 15 ans, de 15 à 25 ans, ce sera le sport de l'avenir, et à 25 ans, ce sera la retraite. Il faudra gagner beaucoup d'argent pendant 10 ans.
Chaque histoire est évidemment différente, mais j'imagine que Marion, tu te reconnais un peu dans ce qu'a pu dire Raphaël Varane et dans son histoire d'arrêter tôt, parce que toi t'as arrêté à 30 ans, hein, je rappelle ta carrière.
J'ai arrêté à 29 ans et moi j'ai arrêté pour une rupture du tendon de l'épaule, donc simplement j'avais plus d'épaule pour pouvoir jouer. Mais si mentalement j'étais pas cramée du tout, surtout en ayant gagné un grand chelem, j'avais l'impression de pouvoir soulever des montagnes, mais simplement physiquement je n'arrive plus à continuer à assumer les deux entraînements parce que mon corps était cassé. Mais comme je l'ai toujours dit, j'ai préféré avoir fait 15 ans de carrière au plus haut niveau en devant m'entraîner effectivement plus que les autres parce que j'avais moins de talent que les autres, mais pour aller vraiment chercher un grand titre, que de faire une carrière moyenne pendant 20 ans. Donc ça m'intéressait pas d'être sur la durée, ça m'intéressait d'aller chercher un très grand titre, et la période dans laquelle j'ai joué qui était extrêmement relevée m'obligeait à pousser la machine extrêmement loin tous les jours, donc effectivement tu t'uses un peu plus vite, mais je n'ai aucun regret là-dessus. Pour en revenir sur ce qui a été dit par Fred et Jérôme, je les rejoins totalement. Les saisons du NBA, c'est 82 matchs, 41 à domicile, 41 à l'extérieur, et vous connaissez les distances de déplacement aux États-Unis. C'est comme ça depuis les années 76-68. J'ai repris l'année de Djokovic 2015, qui est considérée comme la plus grande tennistique réalisée par un joueur. Il avait 28 ans, puisqu'il est né en 87. Il a joué 88 matchs, 82 victoires, 6 défaites, 3 grands chelems remportés. Il perd en finale de Roland-Garros, donc il joue les 4 finales du tournoi du Grand Chelem. Il a fait toute l'année, donc 52 semaines numéro 1 mondial, 6 Master 1000 remportés, finale de 8 Masters.
Mais, oui, mais tu parles d'un extraterrestre.
Mais attends,
il y a des mecs qui viennent de l'univers, du fin fond de l'univers, et qui sont des super-héros. Il y en a quelques-uns dans toutes les disciplines.
Laisse-moi terminer, s'il te plaît. En 2011, quand je considère avoir fait ma meilleure année tennistique, j'ai joué 84 matchs. Aujourd'hui, Carlos Alcaraz, on est quasiment au mois d'octobre, il a joué 52 matchs, et j'inclus la Coupe Davis, les matchs de Lever Cup et les matchs de.
Et il va en Lever Cup, exactement.
52 matchs. Aujourd'hui, quand il va sur la tournée sud-américaine avant de jouer Indian Wells Miami, personne l'oblige. L'ATP n'oblige absolument pas les joueurs à jouer ce genre de tournée. Aujourd'hui, les tournois qui sont obligatoires, c'est les 4 tournois du Grand Chelem et les 9 Master 1000. Point. Le reste, vous le rajoutez ou pas à votre programme, c'est votre propre décision.
Mais pourquoi il se plaint, Marion, alors?
Mais parce que effectivement, on est dans une année olympique, il a bouffé énormément d'influx nerveux. Mais moi, je fais que commenter entre guillemets. Cette année, en rajoutant les Jeux Olympiques, je sens une fatigue supplémentaire quand j'arrive au mois de septembre, parce que le temps de coupure que j'avais pendant l'été, je l'ai pas eu, parce qu'il y a un enchaînement supplémentaire, parce que normalement après Wimbledon, tous les joueurs prennent 10 jours de vacances, vont se reposer, se ressourcer avant la tournée américaine. Que là, ça a pas été possible, qu'il a fallu repasser sur notre surface, et qu'il a l'impression de jamais vu ou pu couper pendant cette saison. Mais il va apprendre. Déjà, toutes les années, bien évidemment, ne sont pas olympiques. Il va apprendre aussi à dire non à des tournois qui, certes, lui proposent des énormes garanties en millions de dollars, parce que là, on parle de millions de dollars.
Mais il va gérer sa carrière, tout simplement.
Mais voilà, exactement.
Il va apprendre, comme tu le dis, à choisir ce qu'il faut et avancer comme il faut.
Il a 21 ans. Et il va apprendre à choisir ses moments dans les saisons, à choisir les moments importants, les plages de repos, et à privilégier ça par rapport à aller jouer des tournois qui le payent énormément d'argent. Il va apprendre, bien sûr. Cette année, je pense qu'il éclaire ça parce que c'est une année olympique, il a l'impression de pas avoir pu couper ou avoir eu le temps de couper, ce qui est effectivement réel. Mais il va apprendre à choisir son calendrier, donc, à choisir ses tournois. Mais pour moi, le foot, c'est pour ça que j'ai dit mais. Parce qu'effectivement, le foot, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette espèce de surenchère, vouloir rajouter des matchs, des compétitions, etc., qui me paraît un petit peu dangereux. Donc c'est pour ça que j'ai dit mais, parce que pour le foot,
Marion, voilà,
je sais, mais là j'ai l'impression. j'ai l'impression que ça devient un petit peu trop. C'est pour ça que je me suis permis de nuancer dans mes propos. Mais en tout cas, pour ce qui est du tennis, qui est mon sport, je vous démontre par A plus B sur des saisons qui ont été les miennes en 2010-2011, qui ont été celles de Djokovic à des années différentes par rapport à Carlos Alcaraz. Non, les saisons ne sont pas plus remplies et non, il n'y a pas plus de
matchs. Sur le football, je pense que l'exigence de la récupération et l'exigence de la prépa physique et l'exigence de l'athlète avant le footballeur va être de plus en plus prépondérante pour les footballeurs à l'avenir. Moi, je pense qu'il est laissé beaucoup trop de côté ce côté récup entre deux événements.
Et la gestion d'effectifs aussi.
Moi, j'ai toujours trouvé ça. Bien sûr. J'ai toujours trouvé ça hallucinant de voir des équipes qui jouent à l'autre bout du pays finir le match, prendre le casse-croûte, prendre le bus et rentrer à des heures pas possibles dans leur ville. J'ai toujours, en tant que sportif de haut niveau, en tant que cycliste, ex-cycliste, j'ai toujours trouvé ça ahurissant. Quand que les gars n'aillent pas à l'hôtel, récup, massage, on rentre le lendemain avec des vraies heures de sommeil, quitte à ce qu'il n'y ait pas d'entraînement, mais au moins tu rentres, t'es frais, t'as récupéré, on sait tout ce que c'est.
Il y a
l'adrénaline, etc., juste après le match. Okay,
tu peux pas aller dormir tout de suite.
Mais tu dois. La suite d'une étape d'un match, c'est là où tu récupères pour la suite.
C'est la régénération.
Il y a plein de choses à mettre en place, je pense, dans le foot notamment, pour que demain tu puisses enchaîner plus souvent. Aujourd'hui, les gars, ils se pètent pourquoi ? Ah ouais, après le match, ils finissent fatigués, il n'y a pas de récup ou peu. On prend le truc, on prend l'avion, ils rentrent chez eux. Pour certains, c'est des gamins. Ils vivent parfois à l'hôtel. Ils vont aller bouffer un casse-dalle à côté, un fast-food, parce qu'il n'y a plus que ça d'ouvert. On joue là. Et trois jours après, il faut qu'ils rejouent à haut niveau. C'est pour ça qu'ils pètent et qu'ils n'arrivent pas à enchaîner. Moi, je pense qu'il y a aussi ça à réfléchir.
Donc, il faudrait qu'ils aient une vie de moine.
Mais c'est pour ça que le sport de haut niveau n'est pas fait pour tout le monde, Christophe.
Et ça, la nouvelle génération a du mal à l'accepter.
Et voilà, je suis complètement d'accord.
Très bien.
Je suis complètement d'accord.
On a parlé de ce sujet.
Donc, multiplions encore, faisons 100 matchs par an. Et puis derrière, tu rentres à l'hôtel, tu te fais masser, tu dors, on te met dans une crise. On te fait de la cryo. Et puis comme ça, tu vas ressortir. On te met sur le terrain. Le sport que vous avez envie de nous faire vivre, franchement, moi j'en veux pas. Hein. Dernière, vous le gardez. Hein.
Dernier argument à te mettre en avant. Si le sport est si beau, si aujourd'hui, autant de sportifs de haut niveau, tu peux même plus vivre
parce que t'es sportif de haut niveau et qu'on te met dans un caisson pour
Christophe, Jules Koundé, il est à la Paris Fashion Week. Il fait des tops en chantier pour Jacquemus. Me dis pas qu'il vit pas, arrête s'il te plaît.
Toi, quand tu enchaînes les journées à l'antenne et les événements, tu te dis pas, j'ai besoin de faire autre chose de ma vie que mon métier. Ton métier, c'est ta vie, quoi.
Mais oui,
ok.